Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la lutte antiterroriste. À l'ordre du jour ce soir, la lutte antiterroriste doit-elle être réévaluée ? Depuis l'attentat meurtrier de Conflans-Sainte-Honorine vendredi soir, de nombreux commentateurs insistent sur le profil singulier du meurtrier. Il n'appartiendrait a priori à aucun groupe reconnu et serait à ce titre indétectable des services de renseignement. Pourtant, ces services ont été épaulés par des chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines mobilisés pour tenter de comprendre les parcours de djihadistes ou de radicalisés, comme on dit aujourd'hui. Pour autant, les autorités ne semblent pas en mesure de prévenir des attentats de ce type, tandis que d'autres, plus structurés et plus organisés, sont finalement empêchés. Nous allons en discuter avec trois invités ce soir. François Tullier. Bonsoir François Tullier.
Bonsoir.
Vous êtes ancien officier des services antiterroristes, chercheur associé au Centre d'études sur les conflits et auteur de deux livres aux éditions Temps Présent, La Révolution antiterroriste et Homo Terrorismus avec Emmanuel-Pierre Guittet. Avec nous également Ariel Planex, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue et collaborateur de magistrats et d'acteur du monde judiciaire antiterroriste. Et enfin, avec nous Sébastien Pietrasanta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député, rapporteur de différentes lois sur le terrorisme de 2012 à 2017, rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, et vous faites désormais de la formation des élus, notamment sur les questions de radicalisation.
Sur les 6 dernières attaques, nous étions confrontés effectivement à des individus qui n'étaient pas connus des services. Et quand les investigations judiciaires démontrent d'ailleurs qu'ils se radicalisent souvent en un trait de temps, qu'ils n'ont aucun contact avec des individus présents en Syrie, en Irak, avec l'État islamique, avec d'autres individus connus sur le territoire israélien, ils n'ont pas de contact. Donc ils sont quasiment indétectables. Et pourtant, les services de renseignement détectent ce genre d'individus, il y a des attentats de jour. Ce que montre l'attaque de vendredi soir, c'est encore une fois que la lutte contre le terrorisme, elle dépasse le cadre des services de renseignement et de lutte antiterroriste. Elle dépasse le cadre de ces services. On voit bien que l'action que nous menons contre le séparatisme islamiste, c'est aussi une forme de lutte contre des dérives politiques qui peuvent donner lieu, et on l'a vu malheureusement vendredi soir, à des dérives extrêmement violentes.
Vous venez d'entendre Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il était hier matin sur France Info. Alors, 6 dernières attaques commises par des inconnus des services, dit Laurent Nunez. François Tullier, est-ce que ça vous étonne, vous qui êtes auteur de deux livres, La Révolution antiterroriste et Homo Terrorismus, aujourd'hui, que d'entendre le coordonnateur national du renseignement dire cela?
Non, bien sûr, il a parfaitement raison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux services antiterroristes, aux services spécialisés, d'éteindre constamment les incendies que d'autres allument pour eux. C'est-à-dire que les leaders d'opinion, et en particulier la classe politique, est sans doute grandement responsable d'une hystérisation du débat. Et il n'est pas effectivement normal que des gens comme cet adolescent tchétchène de Conflans se sentent sommés presque d'agir alors que lui-même n'avait pas été repéré par les services par ailleurs. Donc effectivement, c'est comme il le dit, c'est un sujet qui dépasse maintenant le strict mandat des services spécialisés, c'est sûr.
Sébastien Pietrasanta, vous qui êtes un ancien député et rapporteur à ce titre de plusieurs lois sur le terrorisme et la commission d'enquête sur les attentats de 2015, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire François Tullier, qui dit il y a aussi un climat et ce climat, effectivement, tente à faire développer justement ce climat très particulier de peur, de terreur que nous connaissons aujourd'hui?
Oui, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. Il y a un climat qui est propice et en même temps, il y a un climat qui répond aussi un petit peu aux injonctions qui avaient été faites en 2014 par l'État islamique, qui demandait à ses partisans qui ne pouvaient pas les rejoindre en Syrie ou en Irak de frapper, évidemment, en France et dans les pays occidentaux, de frapper, évidemment, les pays mécréants, et en particulier la France en particulier.
Donc ça répondait et à l'école, et l'école, d'ailleurs, dans un certain, certaines publications de l'État islamique.
Et l'école, effectivement, qui était ciblée en particulier. Et d'ailleurs, moi, dans le rapport de la commission d'enquête sur les attentats, un rapport que j'avais remis en 2016, juillet 2016, j'avais fait une préconisation en disant que l'école était une cible particulière et qu'il fallait être extrêmement vigilant. Et on a vu la mutation de cette menace. On est moins dans les commandos projetés comme on a connu le 13 novembre 2015 avec un commando qui était organisé et structuré depuis Raqqa, mais on est face à effectivement à ce que disait Laurent Nunez, à une menace plus endogène où des partisans de l'État islamique ou d'Al-Qaïda ou même des personnes qui sont perméables à ces idées-là sans forcément être sympathisants, décident de passer à l'acte sans prévenir et donc de manière moins structurée. C'est tout le défi pour les services de renseignement, puisqu'il y a évidemment la détection qui est beaucoup plus complexe à avoir.
Ariel Planex, vous qui êtes anthropologue et qui travaillez avec les services de justice et en particulier les magistrats sur ces questions d'antiterrorisme, qu'est-ce que vous pensez justement de cette difficulté? Et la question que nous posons, c'est justement de savoir s'il faut adapter ou réévaluer la lutte antiterroriste en fonction de ces nouveaux profils, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pensez justement de cela?
Il me semble que les services spécialisés antiterroristes savent tout à fait d'où est susceptible de venir la menace. Le fait qu'un jeune Tchétchène de 18 ans attaque n'est pas en soi la surprise. La communauté tchétchène est très traversée par des dynamiques de violence et une adhésion ancienne à des problématiques djihadistes. Il y a un émirat du Caucase qui est un des grands rêves d'une forme de libération, d'une lutte de libération des Tchétchènes en guerre contre
Kadyrov. Ce jeune Tchétchène, il est tout de même arrivé à l'âge de 8 ans en France, il en avait 18
ans. Tout à fait,
ans.
Mais il vit dans une famille. Moi, ce que j'attends, c'est exactement les propos de la famille et le profil de la famille. Il me semble qu'un arrière-plan familial permanent guide, oriente les décisions de ces jeunes qui ont l'air d'être tout à fait autonome et d'avoir une action erratique. Et en réalité, elle s'inscrit dans un ordre de signification assez cohérent.
François Tullier, dans votre livre, vos livres, puisqu'il y en a deux, La Révolution antiterroriste et Homo Terrorismus, vous remettez plus ou moins en cause justement les manières que l'on a de traiter cette question du terrorisme ou de la radicalisation, terme que vous contestez, dont vous dites qu'il est importé du milieu anglo-saxon. Vous avez l'air de contester cela en disant ben c'est difficile effectivement, mais il faudrait réfléchir autrement à cette question de cette radicalisation supposée.
En tout cas, il est clair que le moins que l'on puisse faire aujourd'hui, arriver au stade où on en est, ce serait de s'arrêter quelques mois pour réfléchir et de procéder à l'évaluation de notre politique antiterroriste. Et ce, pour au moins deux raisons. La première, c'est que cette politique publique a changé, a été modifiée depuis une douzaine d'années, dans un certain sens. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une politique quand même relativement coûteuse. La Cour des comptes, dans un rapport récent, a chiffré à 9 milliards d'euros depuis 2015 le surcoût pour les finances publiques de la lutte antiterroriste. Et encore, on ne parle ici que des ministères régaliens, c'est-à-dire l'intérieur, la justice et la défense. Donc ça n'englobe qu'une partie de la lutte contre la radicalisation. La mission renseignement, à elle seule, a vu ses moyens augmenter d'environ 11%. Donc c'est une politique relativement coûteuse pour les finances publiques, à un moment où l'État, justement, enfin où le gouvernement estime manquer d'argent pour d'autres sujets. Et puis c'est une politique qui a été modifiée ces dernières années dans le sens d'une plus grande radicalisation, justement, une virilisation du discours, et le fait de porter le discours désormais sur le plan religieux avec la lutte contre la radicalisation. Donc il y a eu une montée en puissance.
Il ne faudrait pas, selon vous, porter l'attention sur la question religieuse. C'est ce que vous semblez dire, non pas en filigrane, mais assez précisément dans vos livres, François Tullier. Vous dites, c'est une question de crime, il faut en parler comme d'un crime et pas forcément de le parer toujours de l'étiquette religieuse.
Alors, ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai pas cette qualité. Ce sont d'abord les universitaires, notamment les sociologues, qui, depuis maintenant de nombreuses années, dans leurs travaux, ont estimé que la potentialité violente d'un individu précédait son passage par l'islam. Il ne s'emparait de l'islam comme une justification, en quelque sorte, à ses propres yeux et aux yeux de sa communauté pour commettre le crime, mais la potentialité violente en tant que homo criminalis, en quelque sorte, était déjà présente. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'autre part, les musulmans eux-mêmes, dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs nuances, je dirais, de l'islam consulaire, enfin du CFCM, jusqu'au salafiste, en passant par les frères musulmans, estiment que ces actes n'ont rien de musulman. Donc, pourquoi justement les estimer comme tels, dans la mesure où les principaux intéressés, c'est-à-dire la science et les hommes de foi, estiment qu'il n'en est rien.
Voilà. Sébastien Pietersantres sur ce point, et ensuite Ariel Planex.
Je partage pas ce qui vient d'être évoqué. Je pense que on a été pendant des années et des années, pour pas dire des décennies, face à des œillères, et je crois vraiment que les derniers actes terroristes qui ont été commis sur notre territoire ont été faits au nom de l'islam. Certes, et c'est tant mieux, les principaux responsables musulmans ont condamné cela, mais enfin, ne pas dire que c'est que ces attentats ont été faits au nom de l'islam. Rappelons quand même que les deux précédents attentats, ça a été fait parce qu'il y a eu des caricatures de Mahomet. Et je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Donc là-dessus, je partage pas ce qui vient d'être évoqué.
Alain Planex.
Oui, alors, non, moi je suis plutôt d'accord avec la position de François Thuillet. Je pense que c'est faire beaucoup d'honneur à un assassin de 18 ans que de lui prêter la responsabilité de toute une géopolitique mondiale, religieuse,
pourtant,
d'une maîtrise
de ses canons. Il est issu de la Tchétchénie, oui, avec l'Émirat, etc. Donc c'est compliqué.
Alors, il y a une articulation à faire, et c'est là le sens de tout ce qui était énoncé depuis le départ. La question, c'est pourquoi cet homme est allé décider d'égorger quelqu'un, ce qui est un geste d'une violence inouï. Il y a différentes façons de tuer. D'autres attentats ont été perpétrés avec d'autres moyens. Le choix des armes n'est pas neutre. Et à 18 ans, quand on a le désir de mourir, en étant porté par cette idéologie et d'aller assassiner quelqu'un qu'on identifie, un professeur, dans ce système de pensée, système de croyance, c'est ce qu'on appelle Tarout, c'est-à-dire c'est une fausse autorité qui vient faire intercession entre le message de Dieu et la capacité des hommes à se sauver en le reconnaissant. Donc ce meurtre, il a une logique tout à fait claire, mais il s'appuie aussi sur un ensemble de fragilités probables dans le parcours de cet individu, déscolarisé, avec une famille probablement un petit peu dysfonctionnelle, et une méconnaissance avec une identification majeure à ce principe guerrier.
Oui, ça, on vous dirait, et c'était des termes qui étaient employés il y a peu de temps encore par des ministres ou des premiers ministres, vous pratiquez la culture de l'excuse en tant qu'anthropologue,
oui,
en disant tout cela.
Oui, c'est une formule qui piège, mais qui ne dit rien. On perd beaucoup plus à ne pas comprendre ce qui se passe et ce qu'on a sous les yeux. Il se trouve qu'à force de travailler, nous avons un certain nombre de réponses. Si elles ne sont pas prises en compte, elles ne donneront pas la possibilité de l'amélioration de l'action publique qu'elles souhaitent servir. Mais je tiens à rappeler que Patrice Calvar, ancien directeur de la DGSI, ou Bernard Bajolet, comme Laurent Nunez avant, a déjà expliqué que si on abordait la question que sur un plan sécuritaire, on ne traiterait jamais la menace réelle qui pèse sur le pays.
Sébastien Pietrasanta, en tant que rapporteur, comme vous l'avez été, de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, mais aussi de différentes lois sur le terrorisme, vous dites « je ne suis pas d'accord avec cette approche », vous dites en fait « c'est plutôt une manière que l'on a eue de ne pas vouloir regarder en face cette question de l'islamisme dans notre propre société ».
Je pense que là-dessus, on oublie quand même clairement l'engagement idéologique. Là-dessus, qu'on comprenne, et c'est normal qu'on puisse comprendre les choses sur les dysfonctionnements des familles, sur la question des signaux. Tout cela a été travaillé, d'ailleurs bien travaillé, parce que justement, malheureusement, on a eu un certain nombre de cas d'études sur le territoire national, et y compris à l'étranger. Donc on a travaillé là-dessus. Je me souviens, lorsque j'étais rapporteur de la première loi terrorisme du 13 novembre 2014, on avait, je me souviens, eu un échange, notamment avec le procureur de la République, François Molins, qui m'avait fait passer un petit peu les différentes biographies de l'époque des différents terroristes. On voyait bien, effectivement, un temps de récurrence, notamment sur le dysfonctionnement, sur l'absence de père, tout cela est effectivement intéressant. Mais c'est intéressant surtout sur la détection, j'allais dire, du passage à l'acte. Mais ce que je veux dire, là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est que tout cela, c'est utile pour les services de renseignement, mais encore une fois, ceux qui ont frappé ces dernières années, c'était bien au nom d'une religion et dans un engagement politique et idéologique. Et ça, je pense qu'il faut absolument pas le négliger parce que c'est, je pense, faire une erreur. Par ailleurs, là où je suis d'accord, et j'en terminerai par là, c'est que, bien sûr, quand on a auditionné Patrick Calva, ça a été dit à l'instant, Bernard Majolet, qui était les patrons respectifs de la DGSI et de la DGSE, Service de renseignement intérieur et Service de renseignement extérieur, bien sûr, les uns et les autres, mais tous, on le dit, que l'aspect renseignement, l'aspect répressif n'est pas suffisant en matière de lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre la radicalisation.
Ouais, dans votre livre, François Tullier, sur la révolution antiterroriste, vous avez une préface qui est signée de quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, qui s'appelait Mark Sageman, un psychiatre qui dit, et vous le citez dans votre autre livre, Homo Terrorismus, le djihadiste n'est majoritairement ni pieux, ni pauvre, ni fou. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, dans l'analyse justement de l'antiterrorisme et donc des actions potentiel des terroristes à venir?
Ça signifie que, il n'y a pas de profil particulier du terroriste et qu'il n'est ni pieux, on vient de l'évoquer, c'est-à-dire que la foi, la piété, je ne parle pas de la culture musulmane bien sûr, mais la foi proprement dite et la piété sont des déterminants relativement mineurs dans le passage à l'acte, ni fou, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la santé mentale de la population terroriste est finalement relativement meilleure, j'allais dire, que la moyenne de la population mondiale. Ce sont des gens qui ne sont absolument pas fous et qui sont capables de justifier leur acte de manière tout à fait dogmatique et qui ne sont pas pauvres non plus. En général, le terroriste est quelqu'un qui a... qui ne vit pas dans la misère et qui a tout à fait les moyens, je dirais, de participer au débat du monde, à la fois intellectuellement et financièrement. Il y a effectivement peut-être des troubles identitaires pour certains d'entre eux. On l'a dit, le problème du rapport au père, le problème de famille quelquefois un peu dysfonctionnelle, de quête identitaire, évidemment. Mais finalement, ce sont des gens un peu comme tout le monde, ce qui fait tout à fait la difficulté justement de la lutte antiterroriste et la nécessité, en quelque sorte, de le priver de cette charge émotionnelle qui est un peu son carburant. Le crime terroriste est devenu quasiment un crime passionnel qu'il convient aujourd'hui de désamorcer. Et quand je parlais tout à l'heure de l'islam, c'est uniquement dans un but d'efficacité. Il faut réussir à désidéologiser le crime terroriste, presque à le déconfessionnaliser, pour mieux le réprimer, pour mieux le comprendre d'abord, mais surtout pour être plus efficace, pour lutter contre lui.
Ouais, Ariel Planex, je ne sais pas si je vais rompre le front Tullier Planex face à Sébastien Pietrasantin, mais vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par François Tullier?
Oui et non. Il me semble qu'il y a un profil malgré tout assez identifiable, ou plus exactement, il y a une histoire à chacun de ses désirs de mort. Il faut pas les fantasmer comme eux-mêmes les fantasmes. C'est pourquoi je trouve que ce sont d'abord des assassins mus, et que le fait qu'ils dorent leur acte par une morale religieuse, c'est aussi trompeur finalement de leur accorder que le fait qu'eux-mêmes se l'accordent. Ce sont d'abord des gens qui sont mus par un désir de mort et qu'ils mettent en œuvre une fois qu'ils ont trouvé le moyen de la canaliser.
Le facteur,
de lui donner
là vous êtes d'accord avec François Tullier, évidemment.
Tout à fait. Ouais. Sauf que cette histoire de mort, elle repose sur... Alors moi, j'ai pas mal de cas de psychiatrie. Des gens du renseignement me disaient il y a peu qu'ils étaient assez dépourvus de moyens pour avoir des retours du point de vue de la psychiatrie institutionnelle, de l'encadrement, et qu'ils se retrouvaient avec beaucoup de cas qu'ils n'étaient pas finalement armés pour gérer. Et il y a une articulation entre ces parcours souvent détruits, fragiles ou perclus de violence, et le fait que des mouvements islamistes armés, qui bien plus que l'islam, qui est encore un grand ensemble fantasmatique, qui jette effectivement indûment l'opprobre sur beaucoup de gens parfaitement pacifiques et qui sont souvent également victimes de ces mouvements, des mouvements islamistes armés et organisés, récupèrent ces jeunes comme des soldats et les projettent. Là, nous avons un cocktail particulier de ces entrepreneurs de mort et qui se font passer pour des entrepreneurs de morale et qui nous affligent, en effet, à travers le désir de suicide de certaines personnes. Là, on a quelque chose de l'ordre d'une physionomie identifiable que les seuls renseignements ne peuvent pas circonscrire ni signaler en toute situation, évidemment.
Vous écoutez Le Temps du Débat, il est 18h40. La lutte antiterroriste doit-elle être réévaluée avec nos trois invités? Ariel Planex, que vous venez d'entendre, anthropologue. François Tuillier, chercheur associé au Centre d'études sur les conflits et auteur de deux livres sur la question de l'antiterrorisme. Et Sébastien Pietrasanta, qui a été rapporteur de différentes lois sur le terrorisme et en particulier de la commission d'enquête sur les attentats de 2015.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Sébastien Pietrasanta, vous avez connu donc en tant que parlementaire et rapporteur de commission d'enquête les attentats de 2015. Quand vous les voyez désormais donc très différents, ces attentats se déroulaient sur le territoire. Aujourd'hui, on rappelle qu'il y a donc les 6 derniers terroristes n'étaient pas fichés S. Qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque vous faites de la formation auprès des élus sur ces questions de radicalisation? Qu'est-ce que vous pouvez dire de là où vous avez, de votre expérience? Et de ce qu'il faudrait faire justement pour changer la lutte antiterroriste, puisque c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui.
Alors, en fait, effectivement, beaucoup, je me suis associé avec d'anciens collègues parlementaires qui avons travaillé sur les questions de terrorisme et de radicalisation, Georges Fenech, qui est issu des Républicains, et Patrick Mennucci, du Parti Socialiste. Et on a souhaité, au-delà de nos sensibilités politiques différentes, travailler sur la formation des élus. Et en fait, on s'est rendu compte que les collectivités locales, et en particulier les communes, avaient un rôle à jouer à la fois en matière de détection des signaux, donc donner des grilles aux élus et au personnel municipal sur la détection d'un certain nombre de signaux faibles notamment, et puis le rôle des élus qui a été des maires qui a été renforcé sur le partage d'informations entre la préfecture, le préfet et le maire, et avec une charte de confidentialité qui permet aux élus d'avoir des remontées ou des descentes d'informations qui soient utiles pour pouvoir prévenir. Parce qu'il n'y a pas mieux que le maire pour être un petit peu au courant de la manière dont travaille une association, d'avoir des remontées de riverains, les remontées sur telle ou telle mosquée ou telle éducation à domicile. Et donc, ces informations, elles doivent être partagées entre l'État et la collectivité en respectant la confidentialité. Donc, c'est tout ça sur lequel on forme les élus locaux.
Mais néanmoins, François Tuillier, vous écrivez dans votre livre avec Emmanuel Pierre Guittet, qui travaille, lui, sur la Belgique en particulier, qui a travaillé à des rapports sur ce qui s'est passé à Molenbeek ou ailleurs. Vous dites, même l'analyse la plus fine des contextes d'action et des dispositions biographiques à agir ne peuvent expliquer et encore moins prédire le passage à l'acte, son lieu et son moment, ce qui est pourtant la volonté de certains élus ou de certains responsables du renseignement, c'est d'empêcher effectivement ces actes d'être commis.
Oui, c'est pour ça que la lutte antiterroriste demande une grande cohérence et, à mon sens, plutôt une grande centralisation, contrairement à ce que M. Pietrasanta vient de dire. Je ne suis pas sûr qu'il faille multiplier au maximum les acteurs de la lutte antiterroriste. Autant Daesh prônait une espèce de terrorisme pour tous, je ne pense pas qu'il faille en réponse lui opposer une lutte antiterroriste pour tous. Parce qu'à ce moment-là, on va multiplier les acteurs et tout ça va manquer de cohérence. Évidemment, je comprends très bien la motivation des élus locaux, et notamment des maires, à s'emparer de ce sujet au profit de leur mandant. Mais ça va poser des problèmes de confidentialité par rapport à des informations qui sont quand même classifiées. Vous parliez tout à l'heure des fichiers S. Mm-hmm. Les fichiers S, je rappelle quand même qu'au départ, c'était un fichier qui était confidentiel, qui n'avait pas
vocation. Et qui ne l'est plus maintenant.
Et qui ne l'est plus depuis 2012, parce qu'en 2012, un certain nombre de responsables politiques ont estimé qu'il était très malin d'en parler devant l'opinion publique et de montrer qu'on faisait quelque chose. Mais au départ, c'était un fichier de travail qui n'avait pas vocation à être rendu public. Aujourd'hui, tout le monde parle des fiches S comme une espèce d'alpha et d'oméga de la lutte antiterroriste. Voilà, les fiches S, c'est 30 000 personnes. Sur ces 30 000 personnes, il y a 12 000 de fiches S islamistes, ça n'est pas une fin en soi, et surtout, je ne suis pas sûr que partager ces informations confidentielles avec des élus locaux qui vont avoir toutes les étiquettes partisanes va faire en sorte de rationaliser une lutte antiterroriste qui a besoin vraiment d'une ligne directrice centrale et républicaine.
Ariel Pennex.
Bon, la question des fichiers, c'est effectivement une espèce d'épouvantail public. Ça sert à autre chose, en fait, qu'à surveiller simplement les islamistes. Ça ne surveille pas que les personnes dangereuses, ça surveille un tas de gens susceptibles d'être approchés par d'autres sources, etc. Bon, dans le cas du contre-espionnage, il existe le FSPRT qui également double cette surveillance. Mais encore une fois... On n'a jamais pu et on ne pourra jamais mettre de policiers derrière toutes les portes et s'inquiéter de toutes les situations. Et d'ailleurs, ce n'est ni leur prérogative, ni dans leurs moyens. La question
ni
est
d'ailleurs
aussi
dans la défense
de savoir...
des libertés publiques non plus.
Voilà, et c'est même défavorable aux services qui sont censés servir eux-mêmes et les lois qui encadrent leur pratique. Pour le bien de tout le monde. En revanche, il y a d'autres acteurs dans la société. Le terrorisme est un problème qui touche l'ensemble de la société, qui interpelle beaucoup. On voit bien l'émotion que ça suscite. Et d'autres types d'acteurs, on parlait de l'école, les éducateurs, les acteurs sociaux, les psychologues, toutes ces personnes ont des savoir-faire, ce qui sont disponibles, et qui ont également à faire dans la prévention. Évidemment, une fois que c'est trop tard ou que le passage à l'acte a été commis, ça n'a plus grand sens. Sinon, guise de réparation. Mais néanmoins, ce sont des forces vives qui sont à la fois intéressées à créer du lien social, à donner du sens à la logique institutionnelle et à réintégrer des individus qui sont complètement désaffiliés et en marge de ceci et qui finissent par prendre leur environnement qui les a nourris et qui est le leur en vérité comme un ennemi, sans bien comprendre finalement le paradoxe dans lequel ils sont.
Sébastien Pietrasanta, il y a tout de même quelque chose de très intéressant, c'est qu'évidemment ces questions de terrorisme, c'est ce qui est rappelé dans ces livres par François Tullier, nous les connaissons depuis longtemps, et là, ceux qui ont connu la guerre d'Algérie s'en souviennent, mais depuis longtemps on a connu les années 70, on a connu les attentats d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont peuplé l'actualité dans les années 70 et dans les années 80, et évidemment, depuis une quinzaine d'années, toutes les questions qui sont liées aux attentats islamistes. Et on se dit, mais comment se fait-il que nos services, et c'est peut-être une question trop naïve d'une certaine façon, n'arrivent pas à précéder et souvent suivent des changements qui viennent justement de stratégies venant de ces acteurs du terrorisme toujours renouvelés parce que évidemment, ils courent peut-être plus vite souvent que les États qui les poursuivent.
Alors, permettez-moi, si on est d'accord, de pouvoir répondre juste au sujet précédent. Parce que
bien sûr, allez-y.
Dire qu'il faut uniquement laisser les services de renseignement, en gros, lutter contre le terrorisme, je pense que c'est une erreur fondamentale. Il y a une volonté de centraliser, comme le mot a été utilisé, et d'ailleurs la centralisation, elle existe auprès de la DGSI, qui est maintenant le service pilote en matière de lutte contre le terrorisme.
La sécurité intérieure.
La sécurité intérieure, et évidemment que la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de tous. C'est pas qu'une affaire de services de renseignement. C'est une affaire évidemment des élus locaux, et les élus locaux ont leur rôle à jouer. Et évidemment, à travers la charte de confidentialité, ils ne peuvent évidemment pas transmettre des informations. Et c'est des informations qui concernent uniquement leur commune, mais c'est aussi l'affaire des citoyens. C'est aussi l'affaire des corps intermédiaires. Et les citoyens, ils ont joué un rôle extrêmement important. Rappelons quand même une tentative d'attentat qui a été déjouée par un riverain qui avait vu des bonbonnes de gaz, qui avait senti le gaz. Les restaurateurs, pareil, sur un attentat déjoué à côté de Notre-Dame de Paris. Donc, les citoyens, évidemment, on en appelle à la vigilance, les corps intermédiaires, les élus, la sécurité privée également, tous ont un rôle à jouer. Mmh. À la fois en matière de prévention, à la fois en matière également de lutte contre la radicalisation. Et le monde associatif qui est particulièrement impacté là-dessus, et notamment les associations sportives, ont évidemment un rôle crucial à jouer. Pour répondre plus précisément à la question que vous venez d'évoquer, on a eu le phénomène qui est un peu différent, c'est évidemment à la fois ce que j'appelle la mondialisation, en tout cas les réseaux sociaux, la propagande qui s'est largement plus diffusée, qui permet d'être un accélérateur à la fois de radicalisation et de passage à l'acte. Et Daesh, en particulier après Al-Qaïda, a rompu un petit peu avec les modes de communication traditionnels, mm-hmm. en faisant un mouvement global, avec un recrutement. C'était la première fois où on avait plus d'une centaine de pays qui étaient représentés avec des combattants étrangers, plusieurs dizaines de milliers de combattants étrangers qui étaient venus rejoindre l'État islamique et des partisans dans beaucoup de pays. Donc c'est aussi ça qui a changé par rapport à ce qu'on avait connu. Et c'est vrai que après ce qu'on avait connu en 1995 avec Khaled Kelkal, etc., on n'a plus connu d'attentats jusqu'à Mohamed Merah, des attentats significatifs en France. Et donc on a eu ce sentiment d'avoir un petit peu baissé la garde. Et puis il y a eu ce problème de désorganisation avec la suppression des renseignements généraux qui a affaibli, de mon point de vue, le renseignement. Et donc on a un petit peu, en France en tout cas, baissé la garde par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 95.
François Tullier, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une ligne à suivre. Est-ce que vous appelez la ligne républicaine? Mais c'est difficile de s'y retrouver parce que ce terme de républicain a été utilisé dans tout sens depuis maintenant au moins 5 années, depuis 2015 évidemment, et les attentats de cette année-là. Et on ne sait plus très bien ce que veut dire républicain. Qu'est-ce que vous appelez une ligne républicaine pour combattre le terrorisme, François Tullier?
Et pourtant, c'est notre seule boussole. Et c'est la boussole, justement, qu'on s'est fixée en France, et c'est la mission, justement, de notre pays de suivre cette ligne-là. Elle implique un certain nombre, non pas de valeurs, comme il est dit très souvent, mais de principes, tout simplement, à suivre. Je vais en prendre un seul exemple, la laïcité. La lutte antiterroriste à l'heure actuelle, dans sa dimension de lutte contre la radicalisation, mais également dans l'emploi d'un certain nombre de termes, dévie, en quelque sorte, de ces principes laïques. On doit rester sur une espèce de ligne laïque, on doit se lancer dans cette guerre des mots. Il y a tout un terrain sémantique à reconquérir dans la mesure où il faut s'efforcer de réfléchir au fait que utiliser un certain nombre de termes religieux, comme on le disait au début de ce débat, le fait de placer la réflexion sur un terrain religieux, est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça aide vraiment à l'efficacité de la lutte antiterroriste? D'abord, est-ce que c'est un bon diagnostic? Premièrement, on a vu que ça faisait débat, mais en même temps, est-ce que c'est est-ce que ça n'est pas un frein d'abord au discernement de la menace, mais également à sa répression et au fait que on puisse être meilleur? Moi, mon propos n'est pas de d'être candide sur ces questions-là, mais simplement d'être plus efficace possible, et pour l'être, il faut justement se tenir à cette ligne républicaine et ne pas en dévier.
Et c'est-à-dire pour vous, par exemple, c'est ne pas utiliser les termes de guerre ou les termes de djihad qui ressortissent du vocabulaire de ceux qui sont en face, c'est ça que vous voulez dire?
C'est exactement ce qu'ils souhaitent de nous. C'est exactement ce qu'ils attendent de nous. On leur a accordé ça. Ils voulaient être vus comme une espèce de glaive vengeur d'une umma fantasmée. On leur a accordé ça. Ils voulaient une déclaration de guerre et être traités en égaux par rapport à nous. On leur a également accordé ça. Réfléchissons, est-ce que ça a vraiment aidé dans l'efficacité de la lutte antiterroriste de se placer sur le terrain qu'eux-mêmes ont choisi? Restons sur le nôtre.
Ariel Planex.
Je pense que de répondre à des grandes interpellations en termes de système de valeurs est sans effet sur ceux qu'on cherche à combattre.
Et comment faire alors si c'est pas
de la même façon qu'ils nous expliquent que nous sommes des mécréants et que nous trahissons un dieu, etc. Ce qui est toute une construction absurde démontée facilement, mais et ça ne nous touche pas. On va pas leur opposer la République ou le système de droit. On va leur montrer ce que c'est que un régime démocratique, des institutions qui fonctionnent, ce que c'est qu'un sens de la justice. Et je peux vous dire que la plupart des djihadistes, quand ils arrivent en France après avoir dénoncé la justice française comme illégitime, puisque non divine et non fondée sur la jurisprudence islamique, trouvent une clémence particulière dans l'administration de la justice, mais aussi un intérêt, une capacité à parler qui leur serait tout à fait interdite en zone irako-syrienne où ils combattaient. Et ça a un effet sur les
prévenus. Comment on peut mesurer cet effet, justement ?
On le mesure à la prise de parole, au discours, à la façon dont ils se tournent vers autre chose et dont ils se désengagent de la violence en détention, parce qu'il y a un accompagnement institutionnel qui leur donne, qui leur montre à quel point ils ont tort et à quel point ils se méprennent sur ce qu'ils accusent, sur ce dont ils nous accusent. Et que la justice qu'ils prétendaient défendre, finalement, est beaucoup plus sauvage et vengeresse que celle à laquelle ils sont confrontés.
Sébastien Pitasanta.
Non, je voudrais juste réagir sur la question de la justice et de la détention. Rappelons quand même qu'il y a une forte inquiétude sur la détention des condamnés ou des détenus qui sont en préventive pour terrorisme. On a connu au moins deux attentats en prison. Et il y a une forte inquiétude de l'administration pénitentiaire sur des comportements. Je pense que là-dessus, il y a à la fois des individus effectivement qui sont entre guillemets rangés, qui ne posent pas de difficultés particulières en détention. Après, il y a un deuxième enjeu qui est la question de la propagande et du prosélytisme en détention. Et la troisième grosse inquiétude, c'est la question du passage à l'acte d'un certain nombre d'individus. Et on a quand même eu des attentats qui ont été commis en prison et qui ont été meurtriers.
Sébastien Pietrasanta, ce que disait il y a un instant François Tuilier, à savoir, d'une certaine façon, la politique qu'on a mise en œuvre d'antiterrorisme n'a pas véritablement fonctionné. Pourquoi ne pas la repenser complètement ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y aurait la possibilité de réfléchir autrement à cette question, en particulier vis-à-vis de ces actes isolés dont on parle depuis le début de cette émission ?
Il faut toujours réfléchir autrement, il faut toujours se remettre en question, notamment après chaque attentat. Après, de dire que la politique antiterroriste n'a pas marché, je pense que c'est un jugement de valeur qui...
Oui, il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués par les services de renseignement.
Une soixantaine d'attentats qui ont été déjoués depuis 2013 et que les services de renseignement, qui ont été renforcés à la fois dans leurs prérogatives et dans leurs effectifs, font un travail exceptionnel. Et je crois qu'il faut faire attention à pas les décourager aussi par ce genre de propos, parce que c'est quand même des hommes et des femmes qui nous protègent et qui déjouent des attentats et qui sauvent des vies quasi au quotidien. Et donc voilà, après ça a été dit, la lutte contre le terrorisme ne veut pas être uniquement l'apanage des services de renseignement, et qu'il doit y avoir une mobilisation globale de la société. C'était le cas notamment de ce professeur lorsque dans son cours sur la liberté d'expression réexplique ce que c'est la caricature, explique ce que c'est le droit au blasphème. Et bien c'est d'une certaine manière la République qui est mobilisée justement contre l'obscurantisme et contre cette forme de radicalisation, et dont on a besoin que l'éducation nationale, que l'ensemble, encore une fois, de la société soit mobilisée. Et donc il faut forcément se réinventer et continuer à évoluer et à progresser et tirer de ses erreurs. Mais ne portons pas de jugement définitif.
Sur ce point, François Tuilier, est-ce que vous avez l'impression de décourager vos anciens collègues des services de renseignement quand vous tenez le discours que vous tenez ?
Évidemment non. Je sais très bien que les services antiterroristes et les services spécialisés sont en ordre de bataille, sont composés de professionnels investis. Et là n'est pas le sujet, et ça n'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tout, et ils ne peuvent pas, comme je disais tout à l'heure, lutter contre les incendies qu'on allume dans leur dos. Eux font leur travail. Et en général, d'ailleurs, ils ne demandent pas plus de moyens ni pas plus de lois. Ils estiment avoir tous les moyens pour travailler. Il faut simplement qu'à côté d'eux, dans leur dos, il n'y ait pas un discours qui en rajoute et qui hystérise un peu un climat dont eux-mêmes sont les premiers à pâtir.
Ariel Planex, pour conclure justement, est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a des voies différentes à emprunter pour pouvoir mieux être efficace contre les terroristes, en particulier récemment ?
Oui, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les services de renseignement sont un peu débordés en dépit de tout ce qu'ils peuvent déployer. Ils ont un savoir-faire. Vous questionniez la façon dont ils tout le passé, de le passif même, le CLAT qui est à la manœuvre depuis 86, continue d'avoir une politique de coordination importante, etc. Donc cette cohérence-là, c'est pas le savoir-faire qui manque. En revanche, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Et il est juste, c'est un défi un peu permanent qui nous est lancé, qu'il faut réinventer, trouver de nouveaux outils aussi et de nouvelles formes de collaboration et qu'il y a institutionnellement beaucoup de choses qui peuvent être remises en cause, questionnées et améliorées pour gagner en qualité d'intervention et de prévention de ces actes absolument redoutables.
On y reviendra justement dans d'autres émissions du Temps du Débat. Merci à vous, Ariel Planex. Vous êtes anthropologue et collaborateur de Magistrats et d'Acteurs du Monde Judiciaire antiterroriste. Merci à François Tullier qui était avec nous au téléphone. Vous êtes auteur de La Révolution antiterroriste chez Temps Présent et avec Emmanuel-Pierre Guittet, toujours chez Temps Présent, de Homo Terrorismus. Et merci à Sébastien Pietrasanta, ancien rapporteur de différentes lois sur le terrorisme et rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, d'avoir été avec nous. C'était le Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bail, Fanny Richer, Hugo Boursier, Iman Gilles, à la technique Élise Leu et à la réalisation Alexandre Manzanares. Dans le Temps du Débat demain, régulation, modération, les géants du numérique sont-ils des espaces autonomes? Nous serons notamment en compagnie de Laetitia Avia, députée à l'origine de la proposition de loi sur la haine en ligne qui revient en force après cette attaque de vendredi dernier. À 19h03, vous retrouverez Affaires culturelles cette semaine avec Maïlys Bestry, ce soir en compagnie du metteur en scène et réalisateur Jean-Christophe Meurice. Et puis après, Être et savoir de Louise Touret à 21h, s'intitulera Mourir d'enseigner la tolérance avec 7 invités, dont 5 professeurs d'histoire-géographie. Il est 19h sur France Culture. Les titres de l'actualité avec vous, Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir.